Pierre Picard, bonjour.
Bonjour et bonjour également à tous vos auditeurs.
Quelle définition donnez-vous de la diaspora chinoise ?
Alors, le terme diaspora a souvent été l'objet non pas de polémiques, mais d'écrits très complexes, souvent multiples, puisque généralement on décrit la Chine ou le monde chinois comme étant fait de multiples cercles, selon que l'on peut les appeler les Chinois d'outre-mer, les Chinois hors de Chine, etc., etc. Les exemples sont très nombreux. Pour être simple, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'ouvrage « L'Empire chinois », c'est de dire tout simplement que la diaspora chinoise, c'est au fil de 2000 ans d'histoire, une population exilée pour différents motifs, économiques, des raisons également culturelles, et peut-être aussi pour des raisons liées aux droits de l'homme pendant l'époque communiste. En tout cas, un peuple qui s'est exilé de la Chine pour toutes sortes de raisons pendant près de 2000 ans et qui constitue aujourd'hui, en dehors de la Chine, un ensemble économiquement et numériquement très important aux quatre coins de la planète, pratiquement dans tous les pays du monde.
Alors justement, si je vous demande où on les trouve plus précisément, vous allez me dire partout ?
Alors oui. Oui, on peut effectivement répondre partout, avec bien évidemment des différences. La première image qui me vient à l'esprit, c'est que comme cette vague migratoire a commencé il y a près de 2000 ans, bien évidemment, les transports n'étaient pas ceux que l'on connaît aujourd'hui, et les Chinois se sont installés déjà en Asie du Sud-Est, à partir généralement des terres les plus pauvres du sud-est de la Chine. Les Chinois ont commencé à émigrer avec les premiers marins, les premiers marchands chinois qui fuyaient la Chine pour toutes sortes de raisons, des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons de pauvreté qui étaient très lourdes à l'époque.
Ça s'est passé quand ?
Alors, véritablement, vous savez, on dit que l'homme de Mungo, on a retrouvé le squelette d'un Chinois en Australie qui serait le plus vieil homme du monde trouvé à ce jour sur Terre. Donc il y a des milliers d'années. Mais pour être raisonnable dans ce qui est connu aujourd'hui par rapport aux écrits, l'immigration chinoise a commencé au début de notre ère chrétienne. Et pour revenir à l'immigration dans le sud-est asiatique, c'est principalement de l'époque, je dirais, des premiers siècles de notre ère jusqu'au 12e, 13e siècle.
Où sont-ils les plus nombreux ?
Alors, bien évidemment, de par cette histoire d'immigration, les Chinois, qui se sont d'ailleurs bien acclimatés en Asie du Sud-Est, sont les plus nombreux en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire au Cambodge, au Laos, en Philippines, en Thaïlande. Et bon nombre d'entre eux, d'ailleurs, sont maintenant non pas intégrés, mais assimilés aux populations locales et régionales. Mais ils forment pour la plupart, de par leur stratégie traditionnelle et leur dynamisme économique, ils forment des communautés généralement très dynamiques et très puissantes économiquement.
Alors moi j'aurais dit que c'était aux États-Unis qu'on en trouvait le plus, mais c'était pas ça.
Alors effectivement, c'est l'image qui nous vient à l'esprit quand on regarde les très fortes communautés américaines, qu'elles soient canadiennes, qu'elles soient nord-américaines aux États-Unis d'Amérique. Car si effectivement on va à Vancouver, Toronto, Montréal, New York, bien sûr, les communautés chinoises sont très importantes. Et ça, c'est l'actualité, le phare de l'actualité, qui marque une différence culturelle, notamment en Amérique et en Amérique du Nord, parce qu'en Asie, effectivement, cela se voit un petit peu moins.
Quelle est l'origine géographique de ces migrants ?
La plupart de ces migrants venaient, pour la plupart, des régions du sud-est asiatique, c'est-à-dire globalement, pour schématiser, au sud de Shanghai, sur la bande côtière. Mais ces migrations ont évolué très récemment, depuis les années 80 et surtout depuis l'ouverture économique de la Chine, et elles ne se trouvent plus uniquement dans le sud-est de la Chine, mais maintenant elles viennent de toute la bande côtière de la Chine, du nord de la Chine au sud de la Chine, et maintenant avec le développement économique de la Chine, les Chinois viennent, je dirais, des grandes villes, des grandes métropoles, un peu de tous les coins de Chine.
Est-ce que dans les pays d'accueil, ils ont des métiers spécifiques ?
Alors au départ, les Chinois avaient effectivement des métiers spécifiques qui les reliait à leurs activités ancestrales, ou en tout cas à ce qu'ils savaient faire. C'était des métiers qui étaient liés généralement au commerce, à l'épicerie extrême orientale, à des petits métiers comme la pellicure, le travail du cuir. Et maintenant, bien évidemment, les choses ont changé. On a des Chinois qui sont formés dans des grandes écoles. On a d'autres Chinois qui ont pris l'exemple, je dirais, du marketing occidental, en tout cas qui ont développé du business à travers le monde et qui diversifient énormément leurs activités. Donc on a depuis une dizaine, vingtaine d'années, des secteurs complètement nouveaux d'activités qui vont, pour les petites entreprises, du salon de coiffure, au bureau de tabac, à toutes sortes de sociétés de services. Et pour les grandes entreprises, on a vu dans l'actualité économique des rachats d'entreprises européennes ou américaines, ce qui montre bien une diversification des activités économiques et le potentiel qu'ont les Chinois de s'adapter, quels que soient les pays d'accueil dans lesquels ils se trouvent.
1949, c'est une date clé de l'immigration chinoise ?
1949 n'est pas une date clé de l'immigration chinoise, c'est avant tout l'officialisation du régime communiste le 1er octobre, et c'est la fermeture des frontières en Chine. Alors, à partir du moment où les frontières sont fermées, et vu l'état du pays à cette époque, vu l'immense pauvreté du peuple chinois, peu de gens, en fait, avaient la possibilité de bouger hors de Chine. Donc c'est une date clé, oui, parce qu'elle symbolise une Chine en reconstruction, une Chine communiste qui essaye de se réunifier, de se reconstruire, mais on ne peut pas parler de date clé en matière d'immigration, puisqu'en fait les frontières étaient fermées. C'est plutôt ceux qui auparavant, je dirais, avaient plus de moyens, sentaient le vent venir, voulaient venir en Occident, mais ils restent très limités, qui sont partis notamment en Occident. Mais auparavant et bien avant 1949, on avait bon nombre d'étudiants, d'ailleurs communistes ou non communistes, des étudiants chinois qui venaient faire leurs preuves en Occident et d'ailleurs qui se livraient à des guerres, ce que j'appelle la guerre des plumes, des guerres idéologiques, et qui venaient se former dans les universités, notamment françaises, pour acquérir des connaissances politiques et les ramener ensuite en Chine, dans leur pays.
C'est eux qu'on appelait les étudiants travailleurs ?
Tout à fait. Les étudiants travailleurs avaient comme objectif, à la fois comme ce nom composé l'indique, à la fois d'étudier tout en travaillant, de façon à montrer que l'on n'est pas uniquement là pour étudier, mais que l'on participe à l'effort de travail comme les Chinois dans le pays. Alors, la grande difficulté, c'est que la connaissance de l'Europe, en tout cas de la France, était mal connue pour ces jeunes Chinois et pour les intellectuels chinois. Et ils s'attendaient à trouver une certaine forme de prospérité, un travail facile, des études faciles. Et en fait, ils arrivaient dans une nation, dans un pays qui avait également ses difficultés. Donc, le problème de la langue, le problème de la nourriture, le problème du décalage, à l'époque également, du pouvoir d'achat, ont fait que finalement, ces étudiants travailleurs n'ont pas pu, pour la plupart, subvenir très longtemps et vivre correctement en France, et ont dû repartir après dans leur pays d'origine.
Ils sont arrivés dans les années 20 ?
Ils sont arrivés, oui, tout à fait. Ils sont arrivés dans les années 20. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration très différentes. D'ailleurs, on retrouve encore aujourd'hui dans des souvenirs d'écoles, des photographies montrant des groupes d'étudiants travailleurs chinois qui participent à des cours de français, et puis dans d'autres iconographies des travailleurs chinois qui travaillent dans les usines Renault à Boulogne-Billancourt. Disons qu'il y a eu plusieurs vagues successives, et petit à petit ils sont retournés en Chine pour revivre leur vie dans leur pays d'origine.
Pourquoi aujourd'hui un Chinois émigre-t-il et où ?
Alors, pourquoi un Chinois aujourd'hui émigre et où ? C'est vraiment bien évidemment deux questions différentes qui sont à la fois complexes à expliquer au regard de l'immigration chinoise. Tout d'abord parce que l'immigration chinoise est caractérisée par de multiples facteurs. L'immigration, il y a d'abord le désir de vivre, de connaître les pays occidentaux, le désir aussi d'avoir plus de liberté, le plaisir également d'avoir une vie, je dirais, économique et sociale plus aisée. Donc ça leur laisse une large palette de choix. Et généralement, les Chinois qui émigrent sont actuellement plutôt jeunes. Ce sont soit des étudiants, soit des gens qui sont issus des banlieues pauvres ou des quartiers défavorisés de Chine, comme notamment certaines régions du nord-est de la Chine. Et ils vont immigrer de préférence aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, avec peut-être une préférence pour les États-Unis ou le Canada. Mais comme ils ont une capacité d'adaptation, s'ils n'obtiennent pas les visas qu'ils désirent, eh bien, s'ils ne peuvent pas avoir les États-Unis ou le Canada, bah, ils vont aller en France ou en Allemagne. Et s'ils ne peuvent pas avoir la France ou l'Allemagne, ils vont aller en Belgique ou en Espagne. Donc là, on voit bien que ces Chinois, ils ont des motivations très différentes. C'est vrai qu'ils ont été privés, entre guillemets, de voyages, privés de ressources économiques pendant de nombreuses années. Et bien évidemment, avant la révolution communiste. Mais aujourd'hui, en tout cas, ils voyagent de plus en plus. Mais il n'y a pas que les migrants chinois qui voyagent. Les touristes chinois voyagent énormément. Et pour ne citer que le chiffre de 2005, on a près de 700 000 Chinois qui sont venus découvrir la France, première destination en Europe des Chinois. Et on en attend plusieurs millions en Europe dans les années qui viennent.
Quelles sont les influences réelles du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme dans la Chine d'aujourd'hui ?
Alors, les trois valeurs que vous venez de rappeler sont essentielles, parce que la Chine est plusieurs fois millénaire, et on ne peut pas parler même d'une Chine moderne aujourd'hui, et qui même va avoir un regard sur les États-Unis d'Amérique, sur les comportements des Européens, qui va admirer notre modernité, sans balayer d'un trait des valeurs fondamentales que constituent notamment le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, même si ces valeurs ont été mises un peu sous silence pendant la révolution culturelle et même auparavant. Ce sont des traditions ancestrales. C'est la société chinoise est une société qui s'est construite sur ces valeurs et qui sont basées notamment sur l'esprit de groupe, la solidarité, le travail, le respect de la hiérarchie, des ancêtres, une certaine discrétion et en tout cas des valeurs qui perdurent encore aujourd'hui dans la Chine moderne.
Quel est le rôle des triades ?
Alors on parle beaucoup des triades et quelquefois ça me surprend au regard de la Chine car généralement les triades ont toujours existé de tout temps. Et elles ne sont pas spécifiquement liées à la Chine. Il s'agit pour moi d'un grand mythe. Car en fait, on a souvent parlé des triades sur la Chine parce que les Chinois qui étaient auparavant exilés avaient en face d'eux, aux États-Unis ou ailleurs, de par différentes époques, des lois, des réactions racistes, xénophobes. Ce qui fait que beaucoup de communautés chinoises, d'ailleurs, se sont un petit peu enfermées et ont vécu de façon secrète, de façon à avoir un travail, à éviter des massacres. Et donc, très vite, l'imagerie populaire, on le retrouve très bien dans les ouvrages sur le péril jaune, ont mis en avant ces notions en disant, voilà, les Chinois, qui ont d'ailleurs des représentations très contradictoires, ont effectivement des organisations secrètes. Je crois très franchement qu'ils ont leur propre culture et leur propre façon d'agir collectivement. Et là, vous citiez les valeurs du taoïsme, du confucianisme et du bouddhisme. Il y a effectivement un esprit d'entraide communautaire chez les Chinois, mais les triades ne sont pas, je dirais, la tasse de thé chinoise. Si les triades existent dans le monde aujourd'hui, elles ne sont pas chinoises. Ce sont des triades économiques et financières, j'imagine, un niveau légal ou illégal, mais qui dépasse les frontières et les nationalités et qui ne concerne pas ni la Chine, ni spécifiquement le peuple américain ou européen. C'est un niveau que, personnellement, je ne connais pas. Je vous dirais même que je ne tiens pas à le connaître.
Peut-être plus sûr. Quelles sont les clés de la réussite à la chinoise hors de Chine ?
Alors, les clés de la réussite à la chinoise hors de Chine, c'est de tout temps une très grande adaptabilité au pays d'accueil. C'est-à-dire le respect des régimes politiques, le respect des peuples, le respect des cultures et une faculté extraordinaire d'adaptation dans les pays d'accueil, quelles que soient les régions, quelles que soient les zones urbaines ou rurales, quelles que soient les conditions historiques, quels que soient les moments de l'histoire. Avec des stratégies, point fondamental, avec des stratégies communautaires, de famille, d'esprit d'entraide, notamment par la tontine, le prêt communautaire, mais en tout cas par le travail et par une solidarité effective. Et cette solidarité collective que l'on retrouve dans la tradition chinoise et dans les valeurs que vous avez citées tout à l'heure, permettent justement aux Chinois de réussir partout où ils vont.
Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de ce crédit communautaire ?
Oui, bah écoutez, tout simplement, moi j'ai rencontré un jeune couple de Chinois il y a 4-5 ans, à l'époque où je faisais ma thèse de doctorat, où j'ai terminé en tout cas, et qui m'expliquait que finalement, bon, bah, ils ne pouvaient pas se marier, donc ils en ont parlé avec des amis, et puis les amis ont dit, bah, pourquoi pas, tiens, on va... Puisque en Chine, normalement, on se marie que si on a une maison ou un appartement. Bon, on va réunir des amis qui ont réuni des oncles, des tantes, des chefs d'entreprise, des cousins. Et puis à partir de là, chacun donc a mis d'une façon assez informelle, mais au cours d'une réunion d'une grande table, alors je n'ai plus le nombre exact de participants en tête, mais peut-être 50 ou 100, ont peut-être mis, alors transposé dans l'argent de l'époque, ont peut-être mis entre 5 et 10 000 euros, ou peut-être 3 000 euros sur la table, et ils ont pu s'acheter pratiquement, je dirais, du jour au lendemain, leur appartement, et se marier, et rembourser, sans intérêt, cette somme d'argent chaque année. À charge pour eux, symboliquement, d'aider un autre membre de la communauté, plus tard, dans le besoin.
Ça veut dire que tout est basé sur la confiance ?
Effectivement, le principe de la confiance est fondamental chez les Chinois. Il est fondamental entre Chinois, il est fondamental également pour les Chinois qui ont des relations avec les entreprises occidentales ou étrangères. Travailler avec les Chinois, connaître les Chinois, effectivement, il ne faut surtout pas oublier cette notion de confiance qui doit s'acquérir, mais également aussi le fait de ne pas faire perdre la face.
Le point névralgique de l'immigration chinoise d'aujourd'hui, c'est l'Afrique ?
Le point névralgique de l'immigration chinoise aujourd'hui, je dirais que, puisque vous parlez de l'Afrique, que l'immigration chinoise est relativement peu présente dans l'histoire en Afrique. Certes, l'amiral Zhang He a établi quelques comptoirs, enfin c'était même pas les comptoirs, il y a quelques Chinois qui ont débarqué en Afrique il y a plusieurs siècles. Mais globalement, on assiste aujourd'hui effectivement en Afrique, pour des raisons d'ailleurs légitimes, qui sont liées aux matières premières, mais avec quand même des notions de co-développement beaucoup plus intéressantes que ce que nous avons fait auparavant, à une participation active de l'économie chinoise dans l'économie des pays africains. Personnellement, je ne vois pas là de problème. Si je voyais un problème dans l'immigration chinoise aujourd'hui, je dirais que d'une façon globale, les communautés chinoises ont vécu jusqu'à présent, et pour toutes sortes de raisons que l'on peut trouver légitimes, un peu en développement séparé, un peu, je dirais, à l'écart des communautés françaises, européennes, occidentales, en formant un petit peu leur quartier, ce qui donnait finalement une certaine originalité. Mais en même temps, ces Chinois, comme je le disais tout à l'heure, ont respecté les pays d'accueil et ont développé des stratégies de réussite. Alors, les choses changent, parce que la société se modernise, c'est Internet, la communication, le téléphone portable, et aujourd'hui, effectivement, les choses bougent. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que cette évolution favorable qui fait que les Chinois, aujourd'hui, se développent en s'ouvrant davantage à leurs, je dirais, compatriotes des pays d'accueil, se développent d'une façon encore un peu plus active.
Comment vous voyez l'avenir du problème de Taïwan ?
Vous savez, l'avenir de Taïwan, j'en ai parlé il y a une dizaine d'années déjà, et je n'imaginais pas que ce problème puisse se terminer par un bain de sang. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Asie, la Chine n'a aucune raison, aucune, même si elle tient à l'entité taïwanaise, n'a aucune raison de déstabiliser l'Asie. Je pense que Taïwan sera un petit peu le Québec du Canada ou la Corse de la France. Elle sera différente, mais elle fera partie du monde chinois. Et c'est l'intérêt, à mon avis, des Taïwanais, même s'il y a effectivement, on le sent, des confrontations. La Chine n'est pas encore arrivée au niveau de Taïwan, et Taïwan non plus n'est pas arrivée au niveau de la Chine. Mais un jour ou l'autre, je pense qu'il y aura des accords.
Y a-t-il une immigration illégale chinoise en Europe et en France ?
Alors, l'immigration chinoise a souvent existé. Généralement, elle est relativement bien structurée. Il y avait ce qu'on appelait auparavant, d'ailleurs, comme pour d'autres populations africaines ou d'autres continents ou d'autres pays, des réseaux. Néanmoins, ce que l'on observe actuellement, c'est que cette immigration clandestine, elle est moins visible qu'auparavant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que la plupart des Chinois qui arrivent maintenant, comme d'autres pays, comme d'autres ressortissants de pays étrangers, d'autres pays, arrivent avec des visas légaux de tourisme, économique, d'hommes d'affaires, d'étudiants, etc. Et à partir de là, ils restent dans le pays d'origine et ce n'est qu'au terme de la validité, pardon, de leur visa qu'ils vont devenir illégaux. Mais très souvent, ils ont des stratégies pour se marier, pour trouver un emploi, pour demander un visa après. Donc voici globalement les caractéristiques de l'immigration chinoise clandestine qui a changé de nature, puisqu'auparavant, elle était illégale rapidement, alors que maintenant, elle est légale, puis elle peut devenir éventuellement illégale, et après, elle se régularise.
C'est plus malin, effectivement.
C'est de la stratégie.
Nous étions avec Pierre Picard à propos de l'Empire chinois, mieux comprendre le futur numéro 1 mondial, histoire et actualité de la diaspora chinoise, paru aux éditions Favre.